Bonjour à tous. C'est toujours un privilège de pouvoir emmener la parole de Dieu. Et bien sûr, ça prend ce que Marlène vient de chanter. Dans nos faiblesses, on a besoin de son secours. Même dans les prédications, même dans les rencontres avec les gens, on a besoin de son secours, de son aide. J'ai posé une question mercredi à la fin de l'étude que j'apportais sur Boaz. Jocelyne était là, elle dit « Oh! » Ben, j'avais dit « La suite dimanche. » On parlait sur les dons, un petit peu, pour donner l'avant-goût. Et ce matin, qu'est-ce que Dieu nous donne, en premier de tout? Oui, Paul avait dit mercredi la vie, et il avait raison. C'est la première chose que Dieu nous donne. Mais après?
Il nous donne la foi, pas sûr.
Oui. 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 Allez-y, gênez-vous pas, être en famille.
Il donne son fils.
Oui, il a donné son fils. On a tout pleinement en lui aussi, oui. J'aime ça vous entendre. Savez-vous, qu'est-ce qui est le plus beau don que peut avoir un prédicateur en avant? Hein, c'est une bonne question. Gérard Héry, je le sais qu'il y a la réponse. C'est vous autres. L'assemblée des enfants de Dieu, avec qui il peut partager la parole, avec qui il peut partager ses joies, ses peines, les moments douloureux, les moments heureux, on est là ensemble, une famille devant Dieu. Et le prédicateur qui vient ici en avant, peu importe lequel, c'est un don de Dieu de voir que les chaises sont pratiquement toutes pleines. Merci Seigneur pour cela. Et ce matin, il y a des dons, qu'on peut parler des dons des Écritures, bien sûr, mais il y a d'autres dons qu'on ne parle presque jamais. Ou quelquefois à la fête des mamans, être mère de des enfants, c'est un don de Dieu. Regardez dans l'Ancien Testament, toutes les femmes qui n'avaient pas d'enfants, ils pensaient qu'il y avait un opprobre sur eux, ils priaient l'Éternel, ils faisaient toutes sortes de choses afin d'être capables d'avoir un enfant. Ça, c'est un don de Dieu, ça. Et le papa, ben, qu'est-ce qu'il souhaite, le papa, lui? Un fils. Un fils qui va suivre ses traces. Un fils qui va aller plus loin. Veuillez pardonner ce fourchement de langue. Et aussi, qu'est-ce qui vient encore? Des enfants, des filles, des fils, des petits-enfants. Et le dernier de mes petits-enfants, de mon fils, s'est fait baptiser il y a quelques semaines. Quel don le Seigneur peut nous donner? On parle souvent des dons qui viennent du Saint-Esprit, le don de pratiquer la générosité, le don d'aller aider, le don de faire des prédications, et tous les dons que la Bible peut parler. Mais on parle si peu des dons de tous les jours que Dieu donne. Ceux-là, on les oublie. On n'en parle pas. Vous savez, quand on arrive ici le matin, êtes-vous joyeux de vous serrer la pince? Hein? Êtes-vous joyeux, un petit bec ça joue? Mais oui qu'on est joyeux. Dieu nous donne ça, cet amour-là, qu'il nous a donné les uns pour les autres. C'est un don, ça aussi. On est plus porté à regarder, bien sûr, les fameux dons du Saint-Esprit, ou toutes les autres, c'est pas à dénigner, là, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire qu'on ne prend pas toujours le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Quand Dieu nous parle de sa création, combien de fois qu'il en parle dans les Écritures de sa création? Et c'est un don, ça, que Dieu nous a fait. N'est-ce pas? Imaginez-vous maintenant qu'on enlève certains dons de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? On enlève Jean-Marc de la comptabilité. On enlève Yolande de la console. Hein? On enlève Denis et Noëlla au ménage. On enlève tous les petits ministères ou les petites choses qui se font à l'Église. C'est tous des dons, ça. C'est tous des dons donnés par Dieu. Si on réfléchit comme il faut, Dieu nous parle de ce sens-là. Il nous dit d'aimer ses frères et sœurs et ceux qui y travaillent fortement dans son Église. Ils ont besoin de prières, ils ont besoin d'être honorés. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On ne parle pas fort. On va donc ôter Marlène. Ôter Noëlla avec ses partages. Ou Gérard avec ses partages, bien qu'il était là avec nous. On a besoin, comme Église, de cela. On passe souvent à côté des bienfaits de Dieu parce qu'on pense qu'il faut être un homme ou une femme ou un enfant extraordinaire. Pourtant, il y a un apôtre qui se glorifiait de quoi? De ses faiblesses. Vous savez, il ne faut pas qu'on se prenne pour le nombril du monde, même si on vient ici en avant. On n'est rien que des pécheurs qui se sont repentis devant Dieu, humblement, et Dieu nous a confié des choses, comme à chacun de vous. C'est un don aussi que mon gendre soit assis là. Pensez à ça comme il faut, vous allez voir que vous allez en trouver des dons de Dieu. Et Dieu permet, en plus, qu'il soit en face de chez nous. Fait qu'il va vous dire de quoi, quand on a de la jasette, on jase. On jase du Seigneur, on jase de toutes sortes de choses, mais... Hein? Non. La jasette. Excuse-moi. Non. Des fois, j'ai des petits défauts d'allocution. Il faut me pardonner. Donc, est-ce qu'il y a des personnes sur YouTube? Voyez-vous? Si Yolande n'est pas là, les gens sur YouTube sont où? Elle est bonne, celle-là. Vous savez, on peut se réjouir de le Seigneur, même dans les messages du Seigneur. Hein? Il a pris le temps de marquer dans les Écritures Philippiens 4:4. Il a pris le temps de mettre cela pour qu'on se réjouisse, pour qu'on n'ait pas toujours l'air piteux, qu'on ait l'air joyeux de répandre sa parole et de se réunir ensemble, le glorifier, le louer. Vous savez, quand j'ai fait cette petite étude-là, premièrement, j'étais supposé la donner la semaine prochaine. Mais Michel est venu me trouver et il me dit, « François, pourrais-tu faire quelque chose? » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu attends de moi? » Il dit, « Change de place avec moi, parce que je ne serai pas là dimanche prochain. » Bon, il dit, « Il n'y a pas de problème. » Puis, à un moment donné, on jase. J'ai dit, « Je remercie Dieu que tu me l'aies demandé. » Encore, Dieu s'est occupé de moi. Parce que dimanche passé, j'aurais prêché ici. Et dans l'après-midi, j'aurais prêché à Rivière-du-Loup. Donc, le Seigneur a eu pitié de moi. Il a arrangé tout ça pour que je prêche cette semaine ici et la semaine prochaine là-bas, sans négliger l'Église. Vous savez, Dieu, là, n'oubliez-le pas. Vivez votre foi. Vivez les Écritures avec lui. Vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, ça, c'était l'introduction. On va rentrer un petit peu dans le message. Si vous voulez, on va prier avant de rentrer dans la parole de Dieu. Papa Céleste, on veut te remercier, Seigneur, de prendre soin de nous, de veiller sur nous mieux que nous-mêmes. Et Seigneur, tu sais ce qu'on a de besoin à chaque jour, à chaque instant. Tu as doué des frères et des sœurs aussi, Seigneur, afin de prendre soin de ton Église, de tes enfants. Seigneur, on sait que toi seul, tu pourras le faire, mais tu aimes tu aimes assister, aider, soutenir les enfants qui te sont obéissants. Oui, notre Dieu, merci de tes Écritures, merci de ta patience, de ta bienveillance, de ton amour inconditionnel. Et merci de nous aider à s'instruire dans tes écrits. Merci à ton Esprit Saint aussi qui vient nous aider à comprendre et à mettre en pratique. Bénis ce temps que nous allons avoir ensemble, Seigneur notre Dieu, au beau nom de Jésus. Amen. Premier verset qu'on va lire. 1 Pierre 4, 10 et 11. Comme de bons dissipateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit en annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De partager. De partager les dons qu'il nous a donnés. Comme Denis et Louella, un bon don qu'ils font, de l'aide à l'Église, balayer le plancher. Savez-vous que ça a été mon premier ministère dans l'Église? Nettoyer les galeries à l'extérieur, puis chauffer le poêle pour pas que personne ait froid. Le Seigneur avait dit, François était bon pour ça, on le fait. C'est simple, c'est pas compliqué, mais c'est un don que Dieu donne à l'Église. Et vous, que direz-vous à la personne qui vous demande quels sont vos dons? Mais savez-vous vos dons?
Oui.
Ça, je savais. Nous ignorons souvent ce qu'ils sont. Ou encore, nous ne voulons pas avoir l'air prétentieux. De plus, comment différencier un don et un talent? Je vous regarde, vous me regardez toutes, mais vous ne répondez pas fort. Non, c'est correct. En général, nos talents représentent les domaines où nous excellons. Les sports, les arts ou les sciences, si nous y exerçons quelque chose, ils peuvent combiner capacités naturelles et compréhension et compétences aussi. Donc, dans vos choses naturelles, je sais qu'il y en a qui ont pratiqué le hockey, c'était moi pour ma part quand j'étais jeune. Là, je suis moins jeune un peu, mais dans le temps, on pratiquait le hockey, on faisait du sport, du vélo. Je me rappelle les premiers temps à Saint-Paul, où on était à l'école, au secondaire, on faisait de la course à pied. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive quand on arrête de pratiquer? C'est curieux, les muscles viennent raides. Hein? Et bien des choses viennent plus difficiles. Sur le plan biblique, un don constitue une faculté que le Seigneur nous a accordé pour que nous accomplissions ses desseins pour notre vie. C'est ça? Hein? En général, sur le plan biblique, un don constitue une faculté que le Seigneur nous accorde pour que nous accomplissions ses desseins pour notre vie. Ce matin, quel était votre dessein? Oui, Gérard. Mais de venir ici. Le plan de Dieu pour vous ce matin était de venir à l'Église. Tout simplement. Pour vous réjouir, vous éduquer de la part du Seigneur et vous réjouir ensemble comme frères et sœurs. Donc, c'est destin pour notre vie. Si on ne va pas à l'Église, si on n'est pas avoir envie d'aller à l'Église, pour partager, apprendre les connaissances, mais les desseins de notre vie, ils vont rester peut-être à un certain niveau. tous les croyants reçoivent au moins un don. Ça, c'est sûr. Vous avez reçu au moins un don. L'enseignement, la prédication, l'exhortation, la générosité, l'hospitalité ou autre. C'est ce qui fait la beauté du corps de Christ. Il a remis à chacun des dons divers. Or, nous pouvons fonctionner en symbiose malgré nos différences comme les membres du corps humain travaillant tous ensemble pour remplir leur rôle particulier. Et comme j'en ai nommé quelques-uns tantôt qui travaillaient ici dans l'Église, en n'oubliant pas les anciens, bien sûr, de l'Église, tous ont une fonction à faire dans l'Église. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez gêné ou pas gêné, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de glorifier Dieu dans les dons qu'on a. Donc, Romains 12, 4 et 8, nous parle de ce que je viens de dire pour remplir le rôle particulier dans nos vies. Verset 4, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous aussi sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Dans ces versets-là, je n'ai pas vu aucune place pour des diplômes ou toutes sortes de choses. J'ai vu simplement des versets bibliques qui disent que dans son Église, Dieu, avec le Saint-Esprit, il a déversé des dons dans le but que l'Église soit béni, édifié, et qu'elle puisse avancer. Donc, les dons qu'on a mentionnés là, à partir du verset 6, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le passe avec libéralité, et que celui qui préside le passe avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le passe avec joie. » Je ne sais pas, mais si ces dons-là ne sont pas dans l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Je vous invite à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Si personne donne librement, je pense qu'on ne ferait pas même pas scier les chaînes de ça pour abattre les arbres, parce qu'il n'y aurait pas d'argent, il n'y aurait pas rien. Puis s'il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de prédication non plus. Ces dons-là, c'est Dieu qui les donne à qui il veut, de la manière qu'il le veut. Nos dons et nos talents peuvent aussi s'unir en un tout pour fonctionner ensemble. En réalité, c'est ce que Dieu désire pour nous. On a des talents, on les met en action, bien sûr. Et c'est qui m'agace, moi, des fois, c'est qu'on a des talents, on les met en fonction à l'extérieur, mais à l'Église, non. Et c'est ce qui m'agace. Vous êtes la même personne à l'extérieur de l'Église qu'à l'Église. Vous avez toujours le même corps, les mêmes yeux, les mêmes oreilles, les mêmes bras, les mêmes jambes. Vous êtes toujours les mêmes personnes. Et des fois, les gens, pour pratiquer leur don à l'Église, ont des difficultés, mais le talent à l'extérieur, ça va bien. Et je prie le Seigneur pour que les gens réalisent qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur et qu'ils le font avec zèle puisse le faire aussi dans l'Église avec elle. Que nous amalgagnions ce qui nous a été reçu, ce que nous avons reçu, pardon, de lui, dans le but de mener des vies intègres. Quels sont vos dons spirituels? Comment en faire un meilleur usage? Quand on ne sait pas nos dons, on ne sait pas comment fonctionner avec nos dons, comment on peut faire l'usage de ces dons-là comme Dieu le veut? Dans le but de glorifier Dieu et faire un bon usage afin que l'Église soit édifiée et que l'Église puisse fonctionner correctement. Maintenant, nous allons regarder pratiquer nos dons. Vous avez tenté d'exercer une activité que vous n'aviez pas faite depuis un certain temps, comme aller à vélo, jouer du piano ou parler anglais. Vous avez peut-être hésité quelque peu au départ parce que nous perdons les compétences que nous n'exerçons pas. Si vous avez un don dans l'Église et vous ne le pratiquez pas, ou que vous avez eu, un « aïe » sur le top de la colline, et d'un coup sec, vous êtes dans le fond de la vallée, et là, vous restez là un petit bout de temps. Ça va être difficile de remonter. Tant aussi longtemps que vous ne mettrez pas en action les dons que vous avez et les talents que vous avez aussi. Donc, il faut faire attention. Et que le Seigneur nous donne des fois sur la semaine, j'ai des versets ou des choses que j'aimerais partager, mais je partage avec mon épouse. Elle aussi, elle en a, elle en partage avec moi. On fait un culte séparé. Il y a le but justement de pouvoir partager l'un et l'autre, ce que Dieu nous montre. Si on arrête de faire ça, pareil comme un bout de temps, Marie-Paul, elle me dit, elle dit, François, elle dit, Sam, il nous manque quelque chose. À Vincent, tu priais fort avec les enfants, tout ça. Maintenant, il dit, tu pries plus fort. J'ai dit, mon épouse, si c'est rien que ça pour te faire plaisir, puis ça glorifie Dieu, me prier fort. C'est tout simple. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'Église de Dieu, des petits détails, des petites choses qui peuvent réjouir une assemblée, qui peuvent faire fonctionner une assemblée. Donc, de même si nous ne faisons pas souvent de l'exercice, nos muscles relâchent. Vous savez, on arrête de faire du vélo stationnaire des fois une journée ou deux, puis on s'en sent. Fait qu'imaginez-vous, arrêtez de lire votre Bible deux, trois semaines, vous allez vous en sentir, ça ne sera pas long. Et c'est ça la réalité. Si vous avez des dons particuliers que Dieu a donnés par son Esprit Saint, qui vous a prescrit ou donné même, ce n'est pas pour vous, c'est pour son Église, c'est pour ses enfants. Fait que pourquoi, à ce moment-là, les garder? Et les garder cachés, on pourrait dire même. Sortez-les, faites-les valoir, puis on va voir un petit peu plus loin. Ce n'est pas devant les hommes qu'on doit exercer nos dons, mais devant Dieu qui l'a donné. Nos muscles se relâchent. Certaines machines rouillent et brisent quand on ne les utilise pas régulièrement. Vous savez, les truckers qui sont en avant ici là, peuvent vous dire ça. Là, s'ils ne s'occupent pas des graisser, des mettre en forme, la rouille va tomber là-dedans et tout va aller mal, n'est-ce pas? Et dans notre vie, si on ne s'occupe pas des choses que Dieu nous a données, si on ne s'occupe pas de lui, de veiller à notre vie chrétienne, bien, qu'est-ce qui va nous arriver? On va rouiller, nous autres aussi. On va rouiller, puis on risque de tomber en morceaux. La nourriture et les médicaments portent une date d'expiration, n'est-ce pas? Ce qu'on n'emploie pas, se perd. Si vous voulez perdre les bénédictions que Dieu veut vous donner avec vos dons, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Pratiquez-les pas. Vous allez perdre toutes les bénédictions et vous pouvez, à un moment donné, vous sentir que vous n'avez pas de don. Et ça, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une vérité. Parce que Dieu a donné au moins un don à chacun de nous. Il ne suffit pas de découvrir nos dons spirituels. Nous devons aussi bien les utiliser. Dieu nous les a accordés pour une raison. La parole des talents nous montre que ce qui se passe quand nous cachons nos talents, que Dieu nous donne. Mais nous ne prions nous privons de la joie qui découle d'accomplir ses desseins et de goûter la vie abondante que Jésus a promis. Si vous ne pratiquez pas les dons que Dieu vous donne, si vous ne faites pas les choses que Dieu met devant vous comme talent et don, bien, vous vous privez de bénédiction. Vous vous privez même de la présence de Dieu qui sera avec vous à l'accomplissement des partages de vos dons et des pratiques de vos dons. Donc, dans Matthieu 25, les versets 14, comme on a mentionné les talents, dans Matthieu 25, versets 14 à 18, il en sera comme d'un homme qui partait pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à un des. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Intéressant. Est-ce qu'on est comme le dernier, le verset 18, ou qu'on est comme le verset 16? Il a fait valoir les talents que son maître lui avait donnés. Jésus nous donne des talents et des dons. Est-ce qu'on va les faire valoir, ou oui ou non? Ou est-ce qu'on va les cacher? Il y a deux façons de les cacher, hein? Soit par peur, comme celui qui a été caché, mais aussi par raison, je ne suis pas capable. Et ce mot-là, là, savez-vous qu'il y a un adversaire? Je ne suis pas capable. Mais l'adversaire, c'est j'essaye. J'essaye et je verrai bien comment Dieu va bénir, comment Dieu va m'utiliser. Et dans Matthieu 25, les versets 25 à 28, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne ou je n'ai pas vanné, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi, avec intérêt. Et le verset 28, ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Je ne veux pas être drastique, je n'ai pas besoin de l'aide. La parole de Dieu l'est assez comme ça. Si vous ne pratiquez pas, il y a un chant qu'on chante aussi émané, et à un certain chapitre du chant, c'est « Tu donnes et tu reprends » dans le chant. Et si les dons, vous ne les pratiquez pas, Dieu va prendre le temps, il va vous laisser du temps. Mais à un moment donné, il va vous réclamer quelque chose. Il va vous le demander. Es-tu prêt à me servir avec les dons que je t'ai donnés ou pas? Et ça, il faut le réaliser. En plus, le Seigneur il dit, là, regarde, ce ne sera pas pour que tu te pètes les bretelles ou que tu deviennes quelqu'un dans l'Église. Non. Tu es là pour répondre aux besoins de tes enfants avec les dons que Dieu nous a donné. Je me rappelle quand on a élevé nos petits, nos enfants, qu'est-ce qui arrivait? Il y avait des bouts où il fallait disputer les enfants. D'autres bouts, il fallait les louanger parce qu'ils avaient fait des belles choses. Et Dieu, c'est la même chose avec nous. Si nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit ou ne pratiquons pas ce qu'il veut qu'on fasse, il va nous le dire d'une manière ou d'une autre. Si vous n'arrêtez pas à ces choses-là et que vous dites un peu comme on dit souvent, l'autruche qui se met la tête dans le sable pour ne pas rien voir ni rien savoir, imaginez-vous qu'il y a des versets qui disent que peu importe où ce que tu vas être, Dieu est là. Qu'un jour que Dieu vous allait vous demander de faire quelque chose avec un don qu'il vous a donné, demandez-lui de le faire avec vous. Et vous allez voir, c'est pas mal plus facile que d'essayer de le faire tout seul. Donc, dans Jean 10, 10, c'est intéressant ce verset-là. Avant, on va lire un petit peu. « Il ne suffit pas de découvrir nos dons spirituels, nous devons aussi bien les utiliser. Dieu nous a accordé pour une raison. La parole des talents nous montre que ce qui se passe quand nous cachons nos talents, que Dieu nous donne, mais nous nous privons de la joie qui découle d'accomplir ses desseins et de goûter la vie en abondance que Jésus a promis. » Et dans Jean 10, 10, le Seigneur nous dit exactement cela. La première partie du verset, je la lis pareil, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Si vous avez des dons de la part du Seigneur qui vous a accordé et que vous les pratiquez, l'abondance du Seigneur va être là. L'abondance dans vos besoins. Il va vous donner le, il nous a donné des dons, mais il va vous donner le coffre d'outils qui vient avec, afin que vous soyez capable de fonctionner et aider à faire fonctionner les autres. Vous savez, je vais faire une petite parenthèse ici. Il y a quelques années, Paul a parlé de Fernand Saint-Louis ce matin. C'est un des premiers qui m'a aidé à découvrir certaines choses de ma vie. Fernand Saint-Louis, pour moi, est un ami de longue date. On communique encore ensemble, et des fois, il y a des prières qu'il me demande, et des fois, je lui en demande moi aussi. Il ne faut pas que ça essaye d'aller avec un sens unique. Et ces gens-là, qui m'ont aidé à développer ma vie chrétienne, dans une église, il y en a. Il y en a qui vont prendre le temps d'écouter. Il y en a d'autres qui vont prendre le temps de, si tu as de la peine, des choses, de te serrer dans le bras, de prendre soin de certains besoins. Et vous savez, ça fait partie des dons de Dieu. D'autres personnes qui m'ont aidé, Joseph Tremblay, la première prédication que j'ai faite, c'était une conférence à Rivière-du-Loup, avec Joseph Tremblay. Faites une émission de radio, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Puis je n'avais aucune connaissance. Faites une émission de radio avec lui. Ça m'a aidé, ça m'a donné de la confiance. Après ça, quand on était à Saint-Georges avec Pasteur, qui était là à l'époque, son nom m'échappe. Monsieur Tréguin, Gérard Tréguin. Et qu'on l'appelait monsieur, il aimait moins ça, surtout en particulier, il aimait mieux qu'on l'appelle Gérard. Et avec Gérard, j'ai suivi des cours pendant un an et demi, des cours sur l'enseignement, sur toutes sortes de choses. Par la suite, il y a eu, il y en a qui doivent le connaître, Taublé-Queroy, qui m'a aidé, ainsi que Michel Habib, ont été des amis pour moi pour m'embarquer dans le ministère et dans la mission de BLF présentement. Et bien sûr, on continue. Ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a toujours dans la vie chrétienne une espèce d'échelle. Et essaie pas de commencer à la dernière marche en haut. Commence à la première en bas. Et attends que ton Dieu te fasse monter chaque échelon afin d'arriver où ce que lui veut que tu arrives. Donc, les parents se réjouissent de voir leurs enfants grandir et mûrir au fil des années. De même, le Père Céleste se réjouit de constater en nous une disposition humble à le servir. Si on se met au service du Seigneur, pensez-vous qu'il va vous laisser tranquille et il va vous laisser faire? Non, non, non. Il y a de l'ouvrage. Puis présentement, priez pour qu'il y ait des ouvriers. Parce que comme c'est là, j'en remplace plusieurs. Et un de mes amis, François Vermette, aussi, il en remplace plusieurs. Il y a des églises qui sont cinq églises à bout du fleuve qui n'ont aucun ouvrier. Il faut vraiment que les gens pensent qu'ils sont au service de Dieu. Ils ne sont pas au service de leurs idées ni de leurs passions, mais ils sont au service de Dieu. Et être au service de Dieu, ça peut dire de peut-être s'éloigner de la maison pour quelque temps, aller aider des églises, aller aider des gens. Et ça, c'est important. Et là aussi, il faut que je roule. Le Colossiens 3, versets 22 et 23. Colossiens 3, les versets 22 et 23. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur et dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et là, ça devient important pour les hommes. Ne faites rien pour être vu des hommes. Faites quelque chose parce que Dieu vous l'a demandé, parce que Dieu est avec vous dans cela. Et ça aura la réalité ou la récompense que Dieu pourrait. Ne ratons pas l'occasion qu'il nous fournit comme servir. Comment servez-vous les intérêts de son royaume aujourd'hui? Comment fonctionnez-vous avec le Seigneur aujourd'hui? Êtes-vous prêt, des fois, à lâcher quelques affaires parce que Dieu vous demande d'aller aider une personne ou d'aller aider une église? Si Dieu vous a doué pour ça, c'est sûr qu'il va le faire avec vous. Mais maintenant, là, si vous avez un don, attendez pas d'être parfait pour le pratiquer, parce que vous le pratiquerez jamais. C'est simple. N'attendez pas d'être parfait. Le droit de ne pas être parfait. Ici, je vous conte une histoire d'un pasteur et d'un orateur qui a fait beaucoup d'études, entre autres sur les dons. Lorsque je suis invité comme orateur pour des séminaires de formation, j'éprouve aucune honte à affirmer que Dieu m'a donné la capacité d'enseigner. Cela ne signifie pas que je sois surdoué dans ce domaine. Il m'arrive d'être mal préparé, de manquer de sommeil, d'être impatient ou distrait. Je pense aussi à des personnes qui ont cette qualification dans une proportion bien élevée que la mienne. Néanmoins, Dieu m'a accordé ce don et il s'attend que je l'utilise pour sa gloire. N'allez pas d'être parfait. Vous ne serez jamais. Parce que s'il y a quelqu'un qui est parfait dans l'église ici, pouvez-vous me donner la recette? Parce que j'en aurais besoin, moi aussi. Donc, il existe différentes façons d'exercer le même don. Un chrétien aura, par exemple, la faculté d'évangéliser et adapter en conséquence ses messages lors des cultes. Une autre personne sera plus à l'aise en utilisant ce même don dans la relation amicale ou écrire des livres sur ce thème. Certains ont la faculté particulière de parler de l'Évangile aux enfants. École du dimanche. C'est un don, ça, à l'Église. Un don important. Parce que les enfants, c'est qui? C'est la relève de l'Église. Fait que si on oublie que ce don d'enseigner-là peut être utilisé pour enseigner les enfants, Tout cet aspect reflète les différentes nuances du même don. Il ne faut pas croire qu'il y a une seule manière d'employer un don. Nous ne sommes pas tenus d'imiter Billy Graham. On n'a pas besoin d'être tous des Billy Graham dans l'Église, ça irait pas bien. C'est comme si on aurait un corps, notre corps, mais on aurait que le tronc. Pas de main, pas de pied, pas de tête. Ça ne servirait pas à grand-chose. On a besoin des autres. On a besoin de tous les autres dons autour. Donc, des chrétiens manifestent la capacité d'évangéliser. Leur fixation sur des modèles d'évangélisme les empêche de développer leur propre ministère spirituel, ayant le même don et qu'ils l'exercent d'une façon plus talentueuse, engendre souvent le découragement de ceux qui essayent pour les premières fois de pratiquer le don. Ils cherchent un modèle. Si vous voulez chercher un modèle, regardez Jésus-Christ. C'est lui, ainsi qu'au Saint-Esprit, c'est lui qui les donne les dons. Si vous voulez savoir comment travailler, comment faire avec, c'est à lui que vous devez vous référer. Mais je relis ce que je viens de vous dire. Des chrétiens manifestent la capacité d'évangéliser, leur fixation sur des modèles d'évangélistes les empêche de développer leur propre ministère spirituel, ayant les mêmes dons et qui les exercent d'une façon plus talentueuse, les modèles, engendrent souvent le découragement et non l'encouragement. Quand je parlais de Fernand Saint-Louis, de Gérard Tréguin, de Taublay, c'est des gens qui m'ont dit, « Fais pas comme moi, fais comme Dieu te dit. » Et vous savez que ces trois personnages-là, dans l'enseignement et dans bien des domaines, sont beaucoup plus talentueux que moi. Mais je devais développer qu'est-ce que Dieu mettait sur mon cœur et non pas développer les idées ou les modèles des autres. Et ça devient important. Il ne faut pas que vous croyiez, quand vous commencez à pratiquer vos dons, que tout va être parfait ou satisfaisant. Comme un enfant, au début de sa vie, il doit apprendre à marcher, à parler, n'est-ce pas? Ma petite image, Yolande, s'il vous plaît. Hein? Quand vous commencez à pratiquer votre don, là, vous avez besoin d'encouragement. Vous avez besoin d'aide pour que les gens vous dirigent et vous montrent les choses que la Bible enseigne. Et jamais cette belle petite image-là. De voir comme parents, comme grands-parents, quand vous avez vu les premiers pas de vos enfants, imaginez-vous le Père Céleste, quand il vous voit le servir humblement, tranquillement, il se réjouit, il a du plaisir. Et maintenant, on va conclure. Dans 1 Corinthiens 12, 1 à 3, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon ce que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne dit peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Et dans l'exercice de vos dons que le Saint-Esprit a répandu en vous, vous allez travailler avec le Saint-Esprit. Hey! Belle bénédiction, travailler avec le Saint-Esprit qui vous conduit peut-être pas à la place que vous voulez, peut-être pas le don que vous désirez, mais c'est ce que Dieu lui demande. Donc, la première grâce que le Saint-Esprit fait à une âme, celle qui rend manifeste sa croyance ou sa conversion. Hein? On relit ça. La première grâce que le Saint-Esprit fait à une âme, celle qui rend manifeste sa conversion. Pourquoi qu'on sait qu'un frère ou une sœur est converti? C'est le Saint-Esprit qui le dit. Aussi simple que ça. Cette connaissance de Jésus comme Seigneur, tout vrai membre de l'Église l'a reçue. Mais il y a dans l'Église, par l'action du même Esprit, divers dons et opérations comme il y a diversité de services ou de ministères, sagesse, connaissance, foi, et ainsi de suite, discernement des esprits. Toutes ces grâces viennent du Saint-Esprit qui les distribue comme il lui plaît pour utiliser communément, pour que ce soit utilisé en commun, ensemble. Comme on l'a dit au début, si on enlève Yolande, on enlève Marlène, on enlève Jean-Marc, on enlève les anciens, qu'est-ce qui reste à l'Église? Il y a d'autres dons, là, je ne les ai pas toutes nommées, d'autres ministères aussi dans l'Église. Il ne reste rien. On aurait un bâtiment vide, je serais en train de prêcher à des chaises et non pas à des personnes. Les deux derniers versets. 1 Corinthiens 15, 9. C'est l'apôtre Paul ici qui parle. Il s'est dit, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Et pourtant, il s'est remis au service de Dieu. Il pouvait dire simplement, les amis, moi, je ne suis pas digne. Il aurait pu dire, je ne suis pas capable non plus. Il aurait pu dire, je suis trop gêné. Ou je pourrais dire, ben là, j'ai peur. Mais non. Il a dit simplement, car je ne suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous savez, quand on n'était pas là, des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? On riait des chrétiens. Pas ce que je venais de dire. Moi, les chrétiens ne pouvaient même pas prendre mes enfants, les ôter d'un bras. Mais je comprends l'apôtre Paul quand il parle comme ça. Et avant d'être chrétien, avant d'être un enfant de Dieu, je ne connaissais rien de Dieu. Et pourtant, je le maltraitais. Dernier verset, Éphésiens 3, 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Une personne qui avait bien compris était un pécheur, qui avait bien compris que Dieu lui avait pardonné, qui avait bien compris que Dieu lui confiait, malgré toutes ses faiblesses, malgré tous ses manquements, qu'il lui confiait d'enseigner et d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Mais mes frères et sœurs, dans le Seigneur, si vous avez peur ou vous hésitez, c'est normal. C'est tout à fait normal. On a peur de faire rire de nous. On a peur que les autres ne comprennent pas. On a peur qu'ils ne saisissent pas non plus. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, à travers nous et vous, puisse livrer son message. Ce n'est pas qu'on soit des super-héros des Écritures, qu'on soit des docteurs ou des ci ou des ça. Ce qui est important, c'est que le message du Seigneur soit livré pour édifier son Église, ses enfants, et les encourager. Prions ensemble. Peuple du ciel, devant tout, Seigneur, ce que tu nous apprends, tout ce que tu nous montres, on veut humblement te dire merci, Seigneur. On veut humblement, Seigneur, te demander de continuer de nous aider, Seigneur, de nous garder dans tes bras, dans ta fidélité, dans ton amour, afin qu'on puisse partager ce message, Seigneur, qui est le tien. Ce message à qui tu prends les choses faibles de ce monde afin de pouvoir partager et d'annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui veulent l'entendre. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour tes écrits. Merci de ta présence, de ta bienveillance, de ton amour pour chacun de nous. Au beau nom de Jésus-Christ. Amen.